Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Hulin, page 11, Daf Yud Alef. Bonne écoute et bon limoud.
Kegon de Kaime Dara de Gavre, c'est parce qu'il peut dire que dans cette braïta, il peut s'agir d'un cas où il y avait une rangée d'hommes entre la maison en question et la maison du Kohen, Ve'amre, et il disait sans arrêt que de Kae Kae, la plaie reste telle qu'elle, la plaie reste telle qu'elle. Ainsi, le Kohen a pu s'assurer que la plaie n'a pas diminué, même s'il s'est éloigné de l'endroit, et c'est ainsi qu'il a le pouvoir d'enfermer cette maison. Mais sans cela, il serait possible que le Kohen, qui ne peut pas s'assurer que la plaie n'a pas diminué, n'a pas le pouvoir de fermer cette maison et de la mettre en quarantaine. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Chulin Daf Yud. Nous commençons le shiur de Maseret Chulin Daf Yud Aleph à la deuxième ligne du haut de la page. La Gemara va se poser à nouveau une question d'ordre général. Mena hamilta d'amour rabanan, d'où sait-on cette chose que les chachamim ont dit, zil bataruba, suit la majorité. C'est-à-dire que lorsqu'un doute se présente, on suit la majorité de probabilités pour fixer le statut de la chose, soit pour la permettre, soit pour l'interdire. La Gemara s'étonne, menalan, d'où sait-on cette chose-là, dirtiv, voici, c'est parce que le pasuk dit dans Shemot Kaf Gimel, concernant les jugements, acharei rabim le'atot, il faut pencher d'après la majorité des avis des membres du tribunal. Nous voyons bien dans ce pasouk que nous nous appuyons sur une majorité pour trancher un jugement. Il en sera ainsi pour toute chose. Ragma répond, Ruba deita kaman, une majorité dont les données se trouvent devant nous, kegon tisha hanuyot, comme le cas de 9 magasins qui vendent de la viande permise et un magasin qui vend de la viande interdite, et on a trouvé de la viande dans la rue. Nous suivons la majorité des magasins et nous déclarons la viande permise, Vesanedrin, ou bien en ce qui concerne le tribunal, Lokamevayalan, nous ne nous posons pas de questions. Il est évident que nous suivons la majorité, comme nous l'avons vu dans le Pasouk. Kikamevayalan, quand est-ce que nous nous posons cette question? Ruba deleteh kaman, dans le cas d'une majorité dont les données ne se trouvent pas devant nous, autrement dit, dans le cas d'une majorité statistique qui ne peut pas être vérifiée. Kegon katan uktana, par exemple, le cas enseigné dans la Gemara, dans Maseret Yevamot Daf Samech Aleph, d'un mineur qui a accompli le Levira, donc qui s'est marié avec la veuve de son frère qui est décédé sans laisser d'enfant, qui était aussi mineur. Les Chachamim disent là-dessus, contrairement à l'avis de Rabbi Meir, qu'ils peuvent continuer à vivre ensemble et nous ne craignons pas que par la suite il s'avère qu'ils étaient ou que l'un des deux était stérile. Dans tel cas, le Levira ne peut pas être accompli. Comme il est expliqué là-bas dans Maseret Yevamot, finalement il se trouve que ce mineur s'est marié avec sa belle-sœur en dehors d'un cadre de l'accomplissement d'une mitzvah. C'est donc une liaison interdite. Forcément, c'est parce que nous nous appuyons sur la majorité des gens qui ne sont pas stériles. Il s'agit là d'une majorité statistique qui ne peut pas être vérifiée. Alors Menalan, d'où sait-on que nous pouvons nous appuyer sur la majorité pour permettre ou pour interdire une chose dans un cas pareil? La Gemara répond, Amar Rabbi Lazar, Siman. La Gemara donne un signe pour permettre de mémoriser le nom des différents Amoraïm qui ont intervenu dans ce sujet. Zman Shevach Machnash. Le Zayin fait allusion à Rabbi Lazar, que nous allons voir tout de suite. Le Mem fait allusion à Mar Bereh de Ravina. Le Nun fait allusion à Rav Nachman Bar Yitzhak. Le Shin fait allusion à Rav Shechet. Le Bet fait allusion à Rabba Bar Shila. Le Chet fait allusion à Rav Acha Bar Yaakov. Le Mem fait allusion à Rav Mari. Le Chaf fait allusion à Rav Kahana, le Nun fait allusion à Ravina, et le Shin fait allusion à Ravashi. Donc, Rabbi Lazar dit, Atia Miresha Shel Ola. Nous l'apprenons de la tête d'un korban Ola, d'un holocauste, d'un Makra, à propos duquel le Pasuk dit, dans Vaikra Alef, Venitar Ota Lintacheha. Et le Kohen découpera cet animal selon ses morceaux. Autrement dit, il faudra découper cet animal en morceaux bien définis. Nous déduisons de ce pasouk, Ota l'intachéa, l'animal sera découpé selon ses morceaux, velon etachéa l'intachim, mais ces morceaux en question ne pourront pas être découpés en morceaux plus petits. Alors il est vrai qu'il est possible de vérifier tout l'animal pour s'assurer qu'elle n'a aucune plaie ou blessure mortelle qui la rendrait très fat, mais la question se pose concernant la tête de l'animal qui est l'un des morceaux. Venichush, on devrait craindre, Shema Nikav Krum Shel Moach, que la membrane qui entoure le cerveau s'est trouée, et c'est une des plaies ou blessures qui rendent l'animal très fat. Et puisqu'il est interdit de couper la tête en deux, on ne pourra pas s'assurer que l'animal n'a pas cette blessure et qu'elle n'est pas très fin. Et la lave, n'est-ce pas donc Mishum d'Amrinan Zilbataruba, c'est parce que nous disons que nous suivons la majorité des animaux qui ne sont pas très fins pour établir le statut de cet animal. Nous voyons donc de ce pasouk que nous suivons la majorité pour établir un statut. Marefut Mimai, comment sais-tu que nous nous appuyons sur la majorité pour établir le statut de cet animal? Dilma de Palele ou Badakle, peut-être qu'il fend la tête de l'animal et il vérifie la membrane qui entoure le cerveau. Et si c'est à cause du pasouk qui dit qu'il faut découper la bête en ses morceaux, et de là nous avons appris qu'on ne peut pas couper ses morceaux en d'autres morceaux, et de là nous avons appris donc qu'on ne pouvait pas couper la tête en deux, quand ces choses sont dites qu'il est interdit de couper un morceau en deux, c'est uniquement s'il le coupe entièrement. Il en a fait donc deux morceaux, mais s'il les laisse attachés, autrement dit il a simplement fendu le morceau, mais ne l'a pas séparé entièrement, l'étanba, cela ne fait rien. Finalement, il serait donc possible de fendre la tête de l'animal sans séparer cette tête en deux morceaux, et ainsi vérifier la membrane qui entoure le cerveau. Finalement, de ce pasouk, on ne pourra pas prouver qu'on s'appuie sur une majorité pour établir un statut. Mar bereh de Ravina Amar, atiam shvirat etzem bapesach. Nous apprenons que nous pouvons nous appuyer sur une majorité pour établir un statut de la loi qui interdit de casser un os de l'agneau pascal. De Amar Rachamana, parce que la Torah dit dans Shemot Yudbet concernant l'offrande du Korban Pesach, ve etzem lotush berubo, vous ne casserez pas d'os de ce sacrifice. La question se pose, Venichush Shema Nikav Kurum Shelmoach. On devrait craindre que la membrane qui entoure le cerveau s'est trouée. Dans ce cas, l'animal est devenu très fin, interdit à la consommation. Alors, il est vrai qu'il est possible de vérifier l'animal qu'il n'ait aucune blessure mortelle qui le rend très fin, mais en ce qui concerne la membrane qui entoure le cerveau, il est impossible de la vérifier sans casser les os du crâne. Et la lave, n'est-ce pas donc Mishum Damrinan Zilbataruba? C'est parce que nous disons que nous suivons la majorité, et nous dirons donc, puisque la majorité des animaux ne sont pas très fins, interdits à la consommation, nous pouvons estimer que celui-ci aussi est permis à la consommation. Alagma réfute en disant, Mimai, d'où sais-tu cela? Dilma de Manach Gumreta Ale, peut-être qu'on met une braise sur les os du crâne, de Kalele, et on brûle l'os, et il éclate, ou Badikle, et ainsi il peut vérifier la membrane qui entoure le cerveau. D'Etania, parce qu'il est enseigné dans une braïta, Hamechater Begidim, celui qui coupe les nerfs de l'agneau pascal, Veasoref Batsamot, ou bien celui qui brûle les os de cet agneau, Enbo Mishum Shvirat Etzem, il ne transgresse pas l'interdiction de casser les os de l'agneau pascal. Donc finalement, il sera possible de s'assurer que l'animal n'est pas très fin, en vérifiant même la membrane qui entoure le cerveau. Nous ne pourrons donc pas prouver de cette loi que nous nous appuyons sur une majorité pour établir un statut. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Atia Me'alia. Nous l'apprenons de la queue du mouton ou du bélier qui est offert en tant que Korban Shlamim. De Amar Rachamana, parce qu'à propos de l'offrande du Korban Shlamim, la Torah dit dans Vaikra Gimel, il faudra offrir entre autres Chelbo Ha'alia Tumima, sa meilleure partie, la queue parfaite. La question se pose, Velichush Shemanib Sekach Utachedra. On devrait craindre que la moelle épinière a été sectionnée, ce qui rend l'animal très fin. Puisque la queue doit rester parfaite, il est donc interdit de la couper pour vérifier cela. Il y a lieu de craindre donc que l'animal soit très fin parce que la moelle épinière a été sectionnée. Et la lave, n'est-ce pas donc Mishum Damrinan, c'est parce que nous disons Zilbataruba, nous suivons la majorité, donc la majorité des animaux qui ne sont pas très fins, pour établir le statut de cet animal en disant qu'il n'est pas très fin. Vechitema, et si tu veux me répondre Demetatai Pasikla, qu'on coupe la queue à un niveau plus bas, là où même si la moelle épinière est sectionnée, l'animal n'est pas très fin. C'est-à-dire comme l'Agmara l'explique plus loin, Daf Mem Hamoud Bet, c'est après que la moelle épinière se divise en trois parties, dont une descend dans la hanche droite, l'autre dans la hanche gauche, et la troisième partie continue dans la queue. C'est impossible, parce que le Umat Heatse Amarachmana, le Pasuk dit dans Vaikra Gimel, toujours concernant l'offrande de la queue du mouton ou du bélier, il retirera cette queue au niveau du conseil. La Gemara explique, Makom Sheaklayot Yatzot, c'est-à-dire au niveau de l'endroit où les reins donnent les conseils. Autrement dit, il faut retirer la queue au niveau des reins. Puisque c'est ainsi, la queue comprend une partie de la moelle épinière qui est vitale pour l'animal. Et si dans cette partie de la queue, il s'avère que la moelle épinière est sectionnée, l'animal est tréfa. Et comme nous l'avons dit précédemment, puisque la queue doit rester parfaite, il est impossible de le vérifier. La Gemara réfute en disant, Mimai, d'où sais-tu cela que nous nous appuyons sur une majorité pour établir un statut? Dilma, peut-être que des patachla, qu'il ouvre la queue, c'est-à-dire il la fend, ou badikla, et il vérifie si la moelle épinière est intacte. Et si c'est à cause du passou qui dit que la queue doit rester parfaite, et finalement, comme nous l'avons dit précédemment, il serait interdit de couper la queue pour l'ouvrir. En la réponse est, quand ces choses sont dites, c'est lorsqu'il la coupe entièrement, c'est-à-dire lorsqu'il la sépare entièrement en deux parties, donc il n'a pas le droit de le faire. Mais si les morceaux restent attachés, l'etlanba, ça ne fait rien. Finalement, il serait donc possible de fendre la queue pour vérifier la moelle épinière. Il n'y a donc pas de preuve d'ici qu'on s'appuie sur une majorité pour établir un statut. Rav Shechet, Bereh Deravidi Amar, Atia Me'egla Arufa. Nous l'apprenons de la loi concernant la génisse décapitée. Il s'agit de la génisse qu'il faut décapiter avec un coup de hache sur la nuque lorsque l'on découvre un cadavre dans la nature dont le meurtrier est inconnu. De Amar Achamana, à propos d'elle, le pasouk dit dans Dvarim Kafalef, et les Kohanim se laveront les mains sur la génisse, Ha'arufa, qui est décapitée. Nous apprenons de là, de ce terme Ha'arufa qui est en plus, que Sheishlema Teave, elle doit rester entière, intacte. Il est donc interdit de la découper. Alors la question se pose, Velichush Dilma Trefahi, on devrait craindre que peut-être cet animal est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. Vechi Tema, et si tu veux me répondre, Mainav Kamina, qu'est-ce qu'il sort de là? C'est-à-dire qu'est-ce que cela me change, puisque finalement, cet animal, de toute façon, ne sera pas consommé. Ce n'est pas vrai. Parce que Ha Amre de Rabbi Anai, voici que les élèves du Beta Midrash de Rabbi Anai ont dit, Kapara Ktivba Ke Kodashim. Le pasouk emploie le terme de Kapara, expiation, à propos de cette génisse décapitée, comme la Torah l'emploie à propos des sacrifices. Nous apprenons de là que de la même manière que l'animal offert en tant que sacrifice ne peut pas être tréfa, cette génisse décapitée aussi ne peut pas être tréfa. Mais d'autre part, puisqu'il est interdit de la découper, il est impossible de vérifier cette génisse. Forcément, nous nous appuyons sur la majorité, donc la majorité des animaux qui ne sont pas tréfa, pour établir le statut de cet animal en disant que cette génisse n'est pas tréfa. Rabba bar Rav Shila Amar, Atia Mipara Aduma. Nous l'apprenons des lois de la vache rousse. Il s'agit de la vache rousse dont la cendre est employée pour purifier ceux qui sont devenus impurs par le contact d'un mort. D'Amar Ramana, à propos d'elle, la Torah dit dans Bamidbar Yutet, Veshachat, etc., Vesaraf, et le Kohen l'égorgera et il la brûlera. Nous apprenons de là, de cette juxtaposition de ces deux expressions, Mashritata Sheishlema, de la même manière que l'égorgement de cette vache est effectué lorsqu'elle est entière. Parce que si elle est blessée mortellement, elle est tréfa. As tréfata ksheishlema. Ainsi aussi, le fait de la brûler sera effectué lorsqu'elle est entière. Nous apprenons donc de là qu'il est interdit de découper la vache avant de la brûler. Alors la question se pose, velichush dilma tréfahi. On devrait craindre que peut-être cette vache est atteinte d'une blessure mortelle qui la rend tréfa. Et la lave, n'est-ce pas donc mishum damrinan? C'est parce que l'on dit zilbatar ruba. Nous suivons la majorité, donc la majorité des animaux qui ne sont pas tréfa, pour établir le statut de cette vache en disant qu'elle n'est pas tréfa. Vechi tema mainav kamina. Et si tu veux me répondre, qu'est-ce que cela me change? Puisque de toute façon, cette vache ne sera pas consommée, peut-être donc qu'elle peut être offerte même si elle est tréfa. C'est impossible, parce que chatat karia rachamana, la Torah nomme cette vache chatat, donc comme un korban chatat, la Torah compare donc cette vache rousse à un sacrifice. Nous déduisons de cette comparaison que de la même manière qu'on ne peut pas offrir un animal tréfa comme sacrifice, cette vache rousse aussi ne peut pas être tréfa. Finalement, on pourra donc prouver de là qu'on s'appuie sur une majorité pour établir un statut. Rav Acha bar Yaakov Amar, Atia Misaïra Mishaler. Nous l'apprenons des lois du bouc émissaire. De Rachamana Amar, à propos de lui, la Torah dit dans Vaikra Tetzain, Velakach et Shne Haseirim, le Kohen Gadol prendra les deux boucs et procédera à un tirage au sort. Alors, puisque la Torah s'exprime en disant les deux boucs, nous apprenons de là, chez Yu, Shneem, Shavim, ils doivent être tous les deux égaux. Ils doivent donc avoir la même taille et la même couleur. La Gemara comprend aussi qu'ils doivent se ressembler en ce point, qu'ils ne doivent pas être tréfa, puisque le deuxième qui sera offert est un sacrifice. Alors la question se pose, Velichouch, on devrait craindre. Nous tournons la page à Daf Yudalef Amoudbet. Dilmar.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yudalef Amoudbet. Dilmar Chad Minayhu Trefahu. Peut-être que l'un des deux boucs est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. En fait, la question se pose surtout concernant le bouc émissaire, parce que le deuxième qui sera offert en tant que korban khatat pourra être vérifié. Mais comme nous le verrons par la suite, il est impossible de vérifier le bouc émissaire. Et la lave, n'est-ce pas donc, Mishum Damrinan, c'est pas ce que nous disons, Zilbata Ruba, nous suivons la majorité des animaux qui ne sont pas tréfa pour établir le statut de ce bouc, pour dire qu'il n'est pas tréfa. Et si tu veux me répondre, qu'est-ce que cela nous change, puisque le bouc émissaire n'est de toute façon pas destiné à la consommation? Finalement, on pourrait dire que même si le bouc émissaire était tréfa, ce n'est pas grave. C'est impossible, parce que pourtant, il y a une règle générale selon laquelle El Goral Kovea la Azazel, le tirage au sort ne peut pas déterminer quel sera l'animal, donc le bouc, qui sera choisi comme bouc émissaire, et là, Bedavar Haraou Lachem, uniquement s'il s'agit d'une chose, donc d'un animal, qui est apte à être offert à Kodesh Baruch Hu. Et cela, parce qu'il est impossible de savoir à l'avance quel animal sera choisi pour être offert en tant que sacrifice, en tant que Korban Khatat. Finalement, il faut que les deux animaux soient susceptibles d'être offerts en tant que sacrifice. Par conséquent, même le bouc émissaire sera pas soul s'il s'avère que c'est un animal tréfa. Et si tu veux me répondre qu'on vérifie le bouc émissaire après l'avoir précipité dans le précipice, c'est impossible, parce que Vatnan, pourtant, il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Yuma, Daf Samerzaïn, Amud Alef, Lo Haya Magia Le Mechatitar, le bouc émissaire, après avoir été précipité dans le précipice, n'arrivait pas jusqu'à la moitié de la montagne, Achenase Evarim Evarim, jusqu'à ce que ses membres se soient disloqués. Finalement, il est impossible de le vérifier. Forcément, nous pourrons déduire de là que nous nous appuyons sur une majorité pour établir un statut. Rav Mari Amar, Atia, Mimake, Aviv, Veimo. Nous l'apprenons des psukim dans Shemot Kafalef concernant celui qui blesse son père ou sa mère. D'Amar Rechamana Katle, la Torah dit qu'il faut le mettre à mort. La question se pose, Velichouch, on devrait craindre, Dilma, Lavavivu. Peut-être que ce n'est pas son père. En effet, il est impossible de prouver que cet homme qui l'a blessé était réellement son père. Et la lave, n'est-ce pas donc, Mishum Damrinan, c'est pas ce que nous disons, Zilbatar Ruba, nous suivons la majorité, nous disons donc, Verov Beilot Acharabal, que la majorité des liaisons de cette femme ont eu lieu avec son mari. Par conséquent, nous pouvons établir que cet homme est réellement le père de celui qui l'a blessé. Alagma réfute en disant, Mimai, d'où sais-tu cela? Dilma, peut-être que la Torah condamne à mort celui qui blesse son père. C'est uniquement dans le cas où son père et sa mère étaient enfermés en prison lorsqu'il a été conçu. Ainsi, nous sommes persuadés que cet homme est réellement le père de celui qui l'a blessé. Alagma réfute en disant, même si c'est ainsi que ses parents étaient enfermés en prison lorsque celui-ci a été conçu, en apotropos la rayot, il n'existe pas de gardien en ce qui concerne les relations incestueuses. C'est-à-dire, même si ses parents était enfermé en prison, il y a toujours la possibilité que c'est justement le geôlier qui a eu une liaison avec la mère. Finalement, on ne pourra pas prouver que cet homme est le père de celui qui l'a blessé, si ce n'est que nous nous appuyons sur la majorité des liaisons pour déterminer le statut de cet homme comme étant le père de celui qui l'a blessé. Rav Kahana Amar, Atia Mehoreg et Anefesh. Nous l'apprenons des lois concernant l'assassin. De Amar Rachamana Katle. Parce que la Torah dit qu'il faut le mettre à mort. La question se pose, Velichouch Dilma Trefa Ava. On devrait craindre que peut-être la victime était atteinte d'une blessure mortelle qui la rendait tréfa. Dans ce cas, l'assassin ne sera pas condamné à mort. Et cela parce que nous considérons qu'il a tué une personne morte. Et la lave, n'est-ce pas donc, Mishum Damrinan, c'est pas ce que nous disons, Zilbata Ruba, nous suivons la majorité des hommes qui ne sont pas tréfa pour établir le statut de la victime comme n'étant pas tréfa. Et si tu veux me répondre qu'on vérifie la victime pour s'assurer qu'elle n'était pas tréfa, là ma réponse est impossible, parce que c'est une grande dégradation de la victime. C'est injuste de le faire. Vechitema, ici tu veux me répondre Mishum Ibud Neshama Dehai, que lorsqu'il est question de perdre l'âme de celui-ci, autrement dit lorsqu'il est question de mettre à mort l'assassin, Ninvele, on se permettra de dégrader la victime pour éviter de mettre à mort l'assassin injustement. Ce n'est pas une solution, parce que même si on le vérifie, Venichouch, on devrait craindre Shema Bimkom Saif Nekev Hava, peut-être qu'à l'endroit où il l'a blessé avec l'épée, en le tuant, il y avait justement un trou qui était en fait une blessure mortelle qui le rendait très fat. Finalement, même après vérification, on ne pourra pas déterminer que la victime n'était pas très fat, si ce n'est que nous nous appuyons sur une majorité pour établir le statut de cette victime comme n'étant pas très fat. Ravina Amar, Atia Me'edim Zomemim, nous l'apprenons des lois concernant les témoins comploteurs. C'est le cas où on découvre par témoignage que les témoins qui ont accusé une personne étaient menteurs, lorsque les seconds témoins témoignent qu'ils n'ont pas pu assister au crime parce qu'au même moment, ils étaient avec eux ailleurs. En tout cas, d'Amar Rahmana, à propos de ces témoins comploteurs, la Torah dit « Ve'asitem lo kasher zamam » « Vous lui ferez ce qu'il complotait de faire à l'autre », autrement dit, vous lui infligerez donc à ces témoins la même punition qu'ils voulaient faire infliger à la personne qu'ils ont accusée. La question se pose dans le cas où ils ont accusé une personne d'un crime passible de la peine de mort. On devrait craindre peut-être que cette personne qu'ils ont accusée de ce crime, donc par ce témoignage, était atteinte d'une blessure mortelle qui le rendait très fat. Et la lave, n'est-ce pas donc, Mishum Damrinam, c'est pas ce que nous disons, Zilbata Ruba, nous suivons la majorité des hommes qui ne sont pas très fat pour établir le statut de cette victime. Et ainsi, il est possible de condamner à mort ces témoins comploteurs. Vechitema debadkinanle, et si tu veux me répondre, qu'on vérifie la victime, donc cette personne qu'ils ont accusée, pour s'assurer qu'elle n'est pas très fat, c'est impossible, parce que Vatania, pourtant, il est enseigné dans une breita, Beribi Omer, un des grands de sa génération a dit, Lohagu Neheragim, si le tribunal n'a pas mis à mort la personne qui a été accusée à faux, on condamne à mort les témoins comploteurs lorsqu'on découvre leur mensonge. Hargu, mais si le tribunal a mis à mort cette victime, En Neheragim, les témoins comploteurs ne seront pas condamnés à mort lorsque leur mensonge est découvert. Donc finalement, il est impossible de vérifier cette personne qu'ils ont accusée à faux pour s'assurer qu'elle n'est pas très fat. Quand même, nous voyons qu'on condamne à mort ces témoins comploteurs. Forcément, c'est parce que nous nous appuyons sur une majorité pour établir un statut. Amar Rabashi, Amrita Leshmata Kameh de Rav Kahana, j'ai récité ce sujet devant Rav Kahana, de Amrela. Il y a une deuxième version qui dit que c'est Rav Kahana Kameh de Rav Shimi, que c'est Rav Kahana qui a récité cet enseignement devant Rav Shimi, de Amrela, et il lui a dit, donc il a posé la question suivante, comment peut-on prouver des endroits cités plus haut qu'on s'appuie sur une majorité pour établir un statut? Vedilma, peut-être que Hechade Efchar, lorsqu'il est possible de procéder à une vérification Efchar, il est possible de le faire, il sera donc interdit de s'appuyer sur la majorité pour établir un statut. Par conséquent, pour consommer la viande d'un animal, il faudra vérifier les 18 endroits où la bête est susceptible de devenir très fat. Et dans le cas d'un mineur qui a accompli le Lévira en se mariant avec la femme de son frère qui est décédé sans laisser d'enfant, il faudra les séparer, de peur qu'il s'avère par la suite que l'un des deux est stérile. Cependant, Hechad lo efchar, mais là où il est impossible de procéder à une vérification, comme dans les cas que nous avons vus plus haut, lo efchar, il est impossible de le faire. Autrement dit, dans ce cas, il sera possible de s'appuyer sur une majorité pour établir un statut. Des ilotemachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, les Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Meir de Chaïch Lemiouta, qui tient compte de la minorité, et il est en désaccord avec les Chachamim, qui permettent au mineur qui a accompli le Lévira de continuer à vivre avec sa belle-sœur. Selon lui, donc, il faut les séparer, de peur qu'il s'avère par la suite que l'un des deux était stérile. Hachinami de l'Oachil Bisra, est-il possible de dire qu'il ne mange pas de viande? Parce qu'il est possible de craindre que l'œsophage de cet animal était troué, justement, là où il l'a égorgé. Vechitema Hachinami, et si tu veux me dire effectivement c'est vrai que Rabbi Meir ne mangeait pas de viande, nous passons à Daf Yom.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi quotidiennement en vidéo.